Nous sommes à la page 94. On a expliqué dans ce chapitre 33. On va commencer aujourd'hui, Bezrat Hashem, notre troisième cours, je crois, ou quatrième cours sur le chapitre 33. Et on a expliqué dans ce chapitre que plus on réfléchit au fait que Akadosh Baruch Hu est partout, et que tout ce qui est autour de nous c'est Dieu, et plus on arrive à une vraie simcha, une vraie joie. Pourquoi une vraie joie? Parce que on se rend compte qu'en vérité, même les choses qu'on a l'impression qu'ils sont contre nous, en vérité, qui c'est qui est derrière tout ça? C'est Akadosh Baruch Hu. Maintenant, ça demande beaucoup de réflexion. Ça a l'air très facile ce qu'on dit. Mais ça demande la réflexion d'une vie entière. Et plus on s'approfondit, plus on sent une simcha, et plus on se sent proche d'Akadosh Baruch Hu. Il avait dit une phrase extraordinaire la semaine dernière. Il avait dit, « Vezé kol Adam v'tachlit briyado. » Que ça, le fait de chercher Dieu partout et de trouver Dieu partout, c'est là toute la raison pour laquelle l'homme a été créé et c'est même là le but de son existence. Ça veut dire que le but de l'existence d'un homme, pourquoi Kadosh Baruch Hu nous donne la Torah, pourquoi il nous donne les mitzvot, quel est le but, où tout cela nous mène? Qu'est-ce qu'on a expliqué? On a expliqué que le but de tout cela, c'est quoi? C'est de nous aider. De nous aider
c'est bon.
À comprendre et à voir et à ressentir Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu partout. Alors maintenant, je voudrais m'arrêter un petit peu sur cette notion. Vas-y, Lechaim. David, tu me sais Lechaim?
Voilà.
Lechaim. Alors si vous voulez bien, on va relire ensemble les écoles à Adam. On est en haut de la page 94. On va lire ensemble quelques lignes. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit la semaine dernière, que ces quelques lignes sont des lignes qui ont été sélectionnées par le Rabbi, notre Rabbi, pour faire partie des 12 psukim, les 12 versets, les 12 phrases que les enfants récitent tous les jours. Et c'est pas par hasard, puisqu'en vérité, ces 12 phrases sont 12 phrases clés pour le judaïsme, c'est comme ça que le rabbi pensait. Et donc, on va essayer d'analyser maintenant cette phrase, qui est le 11e pasouk, le 11e verset sélectionné par le rabbi. Il y a un pasouk comme Torah, Tziva, Lanou, etc. Le 11e verset, la 11e phrase, c'est ce pasouk-là. Cette phrase du Tanya. Vezé kol ha'adam. Vezé, et ça. C'est quoi ça? C'est-à-dire, cette idée de chercher Dieu partout et de trouver Dieu partout et de voir l'unicité de l'Akadosh Baruch Hu partout. Vezé kol ha'adam. C'est là tout l'homme. Vetachlit briato. Et le but de sa création. Et pas seulement de la création de l'homme, ouvriat kol ha'olamot. Et la création de tous les mondes. Elyonim vetartonim. Les mondes qu'il y a en haut, et les mondes qu'il y a en bas. Ça veut dire tout le monde, tout ce que Dieu a créé en haut, en bas. C'est quoi? L'iot lo dirazo betartonim. C'est qu'Akadosh Baruch Hu veut qu'on lui fasse une demeure, une maison, betartonim ici-bas. Alors là, on va s'arrêter un petit peu dessus. On a commencé à parler de ça la semaine dernière. On va s'arrêter dessus maintenant plus longuement. D'abord, on va s'arrêter un petit peu sur la notion de tartonim. Il y a tarton et il y a elyon. Retenez bien cette définition. Tarton, ça veut dire ce qui est en bas. Elyon, c'est ce qui est en haut. Tarton représente la matérialité, le monde dans lequel on vit. Elyon représente la spiritualité. Pour ceux qui étaient présents Shabbat après-midi dans le cours, on a expliqué que Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il fait matériellement, il fait la même chose parallèlement dans le spirituel, comme par exemple le tabernacle. Et le tabernacle d'en haut, le tabernacle d'en bas, n'est-ce pas, monsieur Baruch?
Oui.
Tabernacle céleste, tabernacle terrestre.
Vous l'avez dit dans le cours.
On l'avait dit dans le cours,
Mishkan
exactement.
Mishkan.
Exactement. Mishkan, Mishkan. Bon, ça n'a pas eu dans Shabbat après-midi. Et donc, Akadosh Baruch Hu, le but pour lequel il a créé le monde, c'est pas pour en haut, c'est pour en bas. Ouais. C'est très intéressant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on s'imagine que notre but, c'est de tenir bon autant de temps qu'on peut ici-bas, et que finalement, le corps est un frein pour la divinité, et que viendra le jour dans lequel on va se défaire de notre corps, et on pourra enfin monter en haut. D'accord? Il faut savoir que ça, c'est une idée qui n'est pas juive, c'est une idée qui est catholique, ça.
Ça, c'est Maïmonide qui dit ça.
Non.
Il est le seul à dire ça.
Oui, non, je vais plus loin que ça. C'est-à-dire, ça, c'est une idée en vérité qui est catholique, les Avdil. Parce que chez eux, Marchemam, ils disent que le corps est un frein, ce qu'ils disent, et qu'ils disent que finalement, c'est pour ça, par exemple, que les curés, les gens chez eux, etc., ils vont pas se marier. Enfin, ils vont faire d'autres bêtises à côté, mais ils vont pas se marier. D'accord? Pourquoi ils vont pas se marier? Parce qu'ils disent que celui qui représente la loi, celui qui représente la religion, doit être séparé de la matière. Alors qu'en vérité, nous, dans le judaïsme, les Avdil, on pense exactement le contraire. Mais pile le contraire. Au contraire, on pense qu'il faut se marier, c'est une usée de se marier, et au contraire, tout le monde doit se marier, même le plus grand des rabbinim. Et celui qui ne se marie pas, c'est lui reproché. On a eu des maîtres dans la Gemara qui ne sont pas mariés, pour X ou Y raison, pour des raisons même sacrées, ça leur a été reproché. Ce que je veux dire par là, c'est que pour Akadosh Baruch Hu, comment on construit une maison pour Akadosh Baruch Hu? C'est pas en se défaisant de la matière. C'est au contraire. En étant dans la matière et en construisant une demeure pour Dieu ici-bas. Ça veut dire que Dieu, s'il voulait des robots qui fassent ce qu'il a besoin de faire, il a des anges qui font ça beaucoup mieux que nous. Et qui sont programmés et qui font ça sans faute. Mais le but d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas de créer des anges. Les anges, c'est accessoire. Qui est la finalité dans ce monde? C'est Bétartonim, c'est le monde ici-bas. Donc ça, c'est une notion qu'on va devoir développer dans les chapitres suivants, chapitre 36 surtout. Mais on va s'arrêter un petit peu maintenant.
Et pourquoi a-t-il cherché la difficulté?
Ah, ok, c'est une bonne question. Pourquoi il cherche la difficulté? Mais ça veut dire que ce qui explique le Zohar, et là on va s'arrêter un peu plus longuement dessus ici, c'est qu'en vérité, dans quel endroit la vérité de Dieu, le Emet, il va jaillir? Précisément dans un endroit dans lequel il y a l'obscurité. Ça veut dire que quand il n'y a pas d'obscurité, c'est évident que tout va bien. Et quand il y a l'obscurité et que dans cette obscurité tu arrives à éclairer, c'est là que tu montres qu'en vérité tu as une vraie lumière. Je vais vous donner un exemple. Comment on peut savoir par exemple, quelqu'un n'a pas dit oui, je suis religieux. Comment on peut savoir si vraiment il est religieux? Si vraiment il y croit?
En observant ses actes, ses paroles.
Oui, d'accord, mais ça, on n'en sait rien, parce que peut-être qu'il est conditionné, il est dans un environnement où c'est facile de faire la Torah et les mitzvot, et qu'il est conditionné et qu'il les fait. Comment on va savoir si vraiment il est religieux?
Comment on va savoir?
Il sera dans une épreuve.
Non? Le jour où il sera dans une épreuve. Le jour où il sera dans une situation dans laquelle il n'y a rien qui le force, qui l'oblige à faire ça. Par exemple, il va être en vacances. Ça peut être une épreuve, les vacances. Il va être en vacances dans un endroit dans lequel personne ne le connaît. Dans lequel il peut faire ce qu'il veut, il peut se balader comme il veut, il peut ne pas mettre les tefillines, il va rien se passer. Et là, c'est là qu'on va voir, est-ce que dans l'obscurité dans laquelle il se trouve, est-ce qu'il va allumer quand même la lumière ou est-ce qu'il va pas allumer la lumière? C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il a beaucoup plus de plaisir quand moi je fais une mitzvah que quand un ange en haut fait son travail. Parce que l'ange qui fait son travail en haut, c'est normal, il est conditionné. Il n'a pas de raison de ne pas le faire. Il n'y a rien qui ne pousserait à pas faire.
C'est comme le haram également, comme vous avez dit. Oui. Quelqu'un.
Mais... Alors que, quand on a une personne qui est justement confrontée et qui se trouve dans un environnement qui lui est hostile et qui le pousse à faire exactement le contraire de ce qu'il devrait faire, et pourtant il se force et il s'oblige à faire le contraire du choix naturel, il va faire ce que Dieu veut. Là, on va prouver un réel attachement à Kadosh Baruch Hu. Et c'est ça ce que Dieu aime. Dieu aime l'effort qu'on va faire, un effort qui est à contre-courant. Comme ce qu'a parlé justement le Rav samedi soir. À contre-courant. C'est très difficile d'être à contre-courant, mais c'est ce qu'on fait les Juifs. Et d'ailleurs, on amène souvent un exemple dans la Gemara, pas que dans la Gemara, dans le Zohar aussi, que comment on voit qu'un poisson est vivant? C'est quoi l'indicateur pour savoir si un poisson est vivant ou mort? C'est quand il va à contre-courant. Tant qu'un poisson il va avec le courant, tu sais pas s'il est vivant ou pas. Peut-être qu'il est mort. Mais il flotte. Son corps flotte, donc il flotte. Il avance. Mais dès que tu vois que le poisson va à contre-courant, ça c'est le siman qu'il est vivant. C'est pour ça que la mise.
Hein? Les saumons font ça.
Oui, mais beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a même des poissons qui jouent. Ouais. Ça veut dire qu'il te fait croire qu'il va avec le courant et on pack. Et c'est là qu'il te prouve qu'il est vivant. Il y a des poissons comme ça, mais c'est une grande chorma, ça. Alors moi, c'est pas mon métier, mais apparemment, c'est une très très grande chorma. Il y a des poissons qui sont capables de faire les morts comme ça pendant des jours et des jours.
Pour tremper les pêcheurs.
Hein, pour tremper, il fait le mort. Mm-hmm.
Et à un moment, tac,
il ressort. Il ne peut pas le tromper. Si le pêcheur, il envoie le filet, ben, il le ramasse dans le filet.
Hein. Non.
Ah, je parle de
si filet. Si tu as la pêche à la ligne ou à la mouche, oui.
Ah non, ils sont pas bêtes du tout. Alors, ce que je vous montrais par là, c'est quoi? Ce que je vous montrais par là, c'est que à quel moment dira Betartonim une demeure pour Akadosh Baruch Hu ici-bas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, où il se sent à la maison, dans quel endroit il sent qu'on fait vraiment ce qu'il veut faire, c'est dans l'endroit dans lequel c'est pas forcément le choix naturel et on va le faire quand même. Ici-bas sur terre, servir Dieu, c'est pas le choix naturel. Et pourtant, on le fait. Et là, c'est dans une situation comme ça qu'on prouve à Akadosh Baruch Hu qu'on est réellement fidèle. Je vais le dire dans le style de la Chassidut. Dans les mots de la Chassidut, on dit ça comme ça. On dit que l'essence s'exprime particulièrement dans une image inverse. Ça, c'est textuellement ce qui est écrit.
C'est l'exemple du poisson qui va à contre-courant.
Ça veut dire qu'à quel moment tu vas voir l'essence de quelqu'un? C'est quand le courant le pousse dans un autre endroit et lui, il se force quand même à le faire. Et là, tu vas voir que c'est son essence. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner plusieurs exemples, mais je vais vous donner un exemple. Imaginez par exemple, quelqu'un vient ici ramasser de l'argent. Bon, il y a un élan, on donne tous. Et je vais donner aussi. Est-ce que ça veut dire que j'avais envie de donner?
Non.
Pas forcément. Est-ce que ça veut dire que donner est mon essence? Pas forcément.
Non plus.
Peut-être qu'en vérité, j'ai pas forcément une nature de généreuse, mais comme tout le monde a donné, donc je me suis laissé emporter, je donnais aussi.
C'est l'influence.
Donc c'est pas mon essence. Dans quel cas je vais démontrer mon essence? C'est quand personne va donner, et quand tout le monde va dire il faut pas donner, et que la norme sera de ne pas donner, et moi je vais dire non, je vais donner. Et là, je vais montrer mon essence. Je vais montrer que je fais ce que j'ai envie de faire, bien que tout le monde ne le fasse pas. Donc, dans les mots de la Chassidut, l'essence s'exprime quand je fais l'inverse de ce que tout le monde fait. Et ben, c'est ça ce qui plaît à Kadosh Baruch Hu. Ce qui plaît à Kadosh Baruch Hu dans notre monde, ce qui est unique sur Terre. Pourquoi Kadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'il a trouvé dans notre Terre? Au point que Kadosh Baruch Hu, il dit, j'ai créé les anges, j'ai créé le Gan Eden, j'ai créé tout ça, mais c'est pas ça mon but. Mon but, c'est en bas. Qu'est-ce qu'il a trouvé en bas qu'il a pas trouvé en haut? Ce qu'il a trouvé en bas, qu'il n'a pas trouvé en haut, c'est qu'en bas, il y a cette notion que ce n'est pas le choix naturel. Faire la Torah et les mitzvot, ce n'est pas le choix naturel. Nous sommes à contre-courant. Et le fait de faire ce qui est à contre-courant, et que, bon, un juif, il peut tranquillement s'assimiler, il ne va rien se passer. Et le fait d'être là, de se battre et d'être à contre-courant, c'est un plaisir extraordinaire à Kadosh Baruch Hu quand il voit ça. Pourquoi il a besoin de ce plaisir? Ça, on y arrivera. D'accord? Et donc, il faut réfléchir à ça. Réfléchir à ça que chacun de nous autour de la table, et chaque personne du Ham Israël, et chaque personne qui habite dans ce monde, il doit se dire que quand il sert à Kadosh Baruch Hu, il crée une demeure pour un Kadosh Baruch Hu. Je crée une maison pour un Kadosh Baruch Hu. Je crée la maison de Dieu. Et rappelez-vous ce qu'on a dit la semaine dernière. Quand on a une demeure, on peut avoir une résidence principale et une résidence secondaire. Or, dans quelle résidence on investit le plus?
Dans
la résidence principale. Par exemple, si une personne il a une maison ici, une autre maison en Israël ou à Deauville ou je ne sais où. D'accord? Si dans la résidence secondaire, il manque un meuble, il manque un élément de confort, c'est pas la fin du monde. Pourquoi c'est pas la fin du monde? Parce qu'il se dit, bon, de toutes les façons, c'est une résidence secondaire. Par contre, s'il rentre chez lui à la maison à Paris, dans sa résidence principale, et qu'il lui manque ce même élément de confort, là, il n'est pas bien. Pourquoi? Parce que c'est la résidence principale. Alors, qu'est-ce que dit le Zohar? Le Zohar dit que à Kadosh Baruch Hu, il a deux résidences, Kavirchol. Il a la résidence d'en haut et la résidence d'en bas. Quelle est sa résidence principale? Celle d'en bas. Ça veut dire que si un ange en haut, il fait pas exactement son boulot comme il faut, bah, il dit, bon, ça va, il manque une option, c'est pas la fin du monde. Mais quand moi, qui suis en bas, ne fais pas mon travail, pour un Kadosh Baruch Hu, c'est comme si, ça ressemble comme si chez moi à la maison, il manquait un élément essentiel. Il manquait un lit, il manquait une chaise, il manquait une table. Pour nous montrer à quel point pour Akadosh Baruch Hu c'est très important, comment nous sommes très importants, et que chaque acte que nous faisons est capital pour Akadosh Baruch Hu.
Il n'a pas besoin d'être si bas pour voir tout ça. Il peut être tout à fait là-haut et observer, regarder, savoir ce qu'on fait, si c'est bien, et se réjouir de ce qu'on fait,
oui,
tout en étant là-haut.
Oui, non, c'est pas la question n'est pas là. La question, Dieu est partout de toute façon. La question est où est son but? Est-ce que son but est en haut ou son but est en bas?
Non, mais je veux dire par là que le plaisir que ça lui procure en étant en bas, il aura le même plaisir en étant là-haut.
vient de dire le contraire.
Il veut habiter.
Je sais.
Dans l'endroit dans lequel il se sent à la maison.
Il a dit, il veut avoir une résidence parmi nous, voilà.
Il veut habiter dans un endroit dans lequel il a des vrais sujets. Pas des sujets qui sont avec lui parce que le courant tourne comme pousse comme ça. Vous comprenez ce que je veux dire?
Donc même Dieu est à contre-courant.
Ça veut dire que en haut, ouais, tous les anges servent Dieu, mais ils ont même pas de libre arbitre. Enfin, ils ont un libre arbitre limité. Ouais. Ouais. Et donc, c'est normal qu'ils le font.
L'eau va dans le sens.
Ça veut dire qu'il y a pas de ridouche, il y a pas de nouveauté. Donc, à Kadosh Baruch Hu, vous n'êtes pas des sujets, vous, parce que c'est évident. C'est évident, vous êtes programmé, vous le faites, c'est tout. Un vrai sujet, c'est quoi? C'est quelqu'un qui, naturellement, il a aucune raison, et qu'il a aucune obligation, entre guillemets, de te suivre. Et il vient quand même, il te dit, je viens avec toi. Vous êtes mon roi. Votre majesté. Là, le roi, ça, c'est un vrai sujet.
C'est ici que ça se passe.
Et ça, il n'y a que ici. Il n'y a pas en haut, ça. Cette notion que le choix, choisir un Kadosh Baruch Hu, le libre arbitre. Je dis, j'aurais pu faire autre chose, j'ai choisi un Kadosh Baruch Hu. Ça, il n'y a que en bas, ça. Et ça, c'est pour ça qu'on parle ici justement de Dira Vatartani, du demain pour la Kadosh Baruch Hu.
Sauf si on fait des
verres. Alors.
Constamment la renouveler, c'est dire.
Pourquoi?
Il faut constamment la renouveler.
Constamment, bah oui, chaque seconde.
Tant qu'on l'a construit.
Ah ben non, parce que chaque seconde, c'est comme le roi. Les sujets doivent montrer au roi constamment qu'ils lui sont fidèles.
Une fois qu'on a construit la maison, le palais, on a déjà quelque chose, on le dira.
Non, c'est comme un mariage. Une fois que t'es marié, ça marche pas comme ça.
Ouais. Ah, salut, ça.
Une fois que j'ai construit ma maison, en tout cas.
Non, le mariage se renouvelle constamment. Oui, et la vie nous prouve le contraire, sinon. D'ailleurs, même, vous savez qu'alachiquement, il y a même une définition. C'est le Rav Gatchover, il dit comme ça. Il dit que quand on se marie, chaque seconde, c'est comme si on se remariait. Et quand il étudie ça justement avec un autre Gaon, alors l'autre Gaon, il a dit, alors, Mazal Tov, parce que vous venez de vous marier. Parce que chaque seconde, c'est renouvelé.
Mais
d'ailleurs, on sait très bien que dès qu'on lâche prise, et ben, ça part. Alors, on va continuer un petit peu, je vais continuer à l'oral sur ça, parce que bon, aujourd'hui, on est moins nombreux, donc on va essayer de s'arrêter un peu plus dans l'idée, dans le développement. C'est connu au nom du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov nous explique que la raison pour laquelle les Juifs ont été dispersés dans différents endroits dans le monde, jusqu'à dans des îles, hein, rappelez-vous l'histoire qu'il nous a racontée le Rav samedi soir.
On n'a pas dit où c'était.
D'accord. Je ne sais pas quelle île c'était, voilà. Quel est le but? Pourquoi les Juifs sont dispersés? C'est au nom du Baal Shem Tov qu'on dit ça. Les Juifs sont dispersés pour
ramasser des étincelles.
Pour purifier la terre, et donc pour ramasser les étincelles. C'est ce que dit le Baal Shem Tov. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Baal Shem Tov nous explique que un Juif, partout où il est, il fait un travail. Maintenant, ce que le Rav n'a pas dit, ce qu'on va développer, mais c'est ce que dit le Baal Shem Tov aussi, c'est qu'en vérité, ça va très loin. Imaginez par exemple un Juif qui habite en France. Donc s'il est en France, c'est qu'il a un travail à faire en France. Sinon, il serait pas là. Et concrètement, ce Juif n'est pas pratiquant. Mmh. Alors, est-ce qu'il était là pour rien? Est-ce que Dieu l'a placé ici pour rien, concrètement? C'est-à-dire qu'il était en France pendant 80 ans, il n'a pas fait de la Torah. Il arrive après 120 ans, quand il arrive en haut, bon, à part les misères qu'il a fait, qu'il n'a pas fait, est-ce que Dieu va dire, bah, ce monsieur, c'était un échec, il était en France, il n'a pas fait son travail? Eh bien, écoutez ce que dit Baal Shem Tov. Écoutez, c'est très puissant. C'est très puissant. Non, vous allez voir, c'est très puissant. Pour moi, c'est le point le plus puissant, ça. Baal Shem Tov, c'est comme ça. Il dit que le fait même qu'un juif se trouve dans un endroit, même si sa émouna n'est pas dévoilée, il a tout le temps une émouna en lui. Et le fait même qu'un juif a une émouna en lui et qu'il se déplace dans un pays avec une émouna en lui, même si cette émouna, il ne l'exprime pas, et même si il exprime le contraire de cette émouna, le fait même de se trouver dans un endroit, d'accord, avec la émouna en lui, il irradie sur l'endroit. C'est extraordinaire, ça. Je sais pas si vous imaginez ce que je veux dire. Ça veut dire que tu peux avoir un juif qui est renégat, qui se dit renégat, et qui exprime une idée contraire à sa émouna. Mais du fait même qu'il se trouve dans un endroit, et qu'il a au fond de lui cette émouna, il irradie autour de lui.
Il n'a pas été créé pour ça, quand même.
C'est déjà ça. C'est
merci, Lascar.
Non. Bien sûr que le mieux, c'est d'irradier et d'exprimer la émouna aussi.
Oui.
C'est extraordinaire, ça. Ce que dit le Baal Shem Tov.
Oui, mais alors finalement, il fait la valeur.
Il a la valeur.
De quelqu'un qui n'a pas la émouna, qui est presque un renégat, etc. Et on lui dit, ben quand même, ça fait rien, tu es le plus beau, le plus gentil. Alors ça n'encourage pas. les autres à faire les efforts, etc.
On n'est pas en train de dire que celui qui est à côté de la plaque, c'est bien ce qu'il a fait.
Non, c'est un cas extrême. Non, mais on a dit que celui qui a 0 sur 20, on lui met quand même 19 sur 20.
Je vais expliquer, monsieur Benita. Je sais pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est la chose suivante. C'est que partout où un juif passe, il a quelque chose à récupérer. Et même si, concrètement, ce juif n'a pas fait son travail où il devait le faire, d'une certaine manière, il fait toujours son travail. Peu importe. Qu'il le veuille ou qu'il le veuille pas. Parce que le fait même de marcher dans un endroit, d'être présent dans un endroit, le juif déjà irradie. Seulement, bien sûr que s'il fait pas la Torah et la Mitzvah, ça prend plus de temps. Je vais vous donner un exemple. Le rabbi Yosef Yitzhak, rabbi précédent, vous savez qu'il est en prison, comme tous les rabbis de Lubavitch. D'accord? Il était en prison. Il était en prison parce qu'il était contre-révolutionnaire, il diffusait la Torah. Et le rabbi Yosef Yitzhak, il écrivait beaucoup, le rabbi Yosef Yitzhak, il avait une plume extraordinaire. Et dans ses mémoires, il écrit la chose suivante. Il raconte ce qu'il a ressenti quand il était en prison. Il a dit, quand j'étais en prison, à ce moment-là, je réfléchissais au fait que tout juif croyant, surtout avec la Emouna telle qu'elle nous a été enseignée par le Baal Shem Tov, doit savoir que chaque endroit qu'un juif piétine, chaque endroit dans lequel un juif se trouve, il y a une raison et il a un but. Il n'est pas là pour rien. Je ne sais pas si vous voyez la puissance qu'il est en train de dire. Bon, lui, évidemment, il était là-bas parce que c'était un sadique. Évidemment, il n'y a pas de question. Mais il était dans un endroit dans lequel il y avait des tueurs à côté de lui. Moi, tu dis, mais qu'est-ce que je fais là? Et il y a un endroit comme ça, ça m'a aidé à réfléchir au fait que si je suis là, c'est que j'ai un travail à faire. Peut-être que je dois passer par ici de faire le Torah à la Mitzvah. Non, je vais aller plus loin que ça. Dans les prisons, il n'y a pas que des non-juifs. Il y a aussi des juifs. Il n'y a pas que des juifs qui sont contre-révolutionnaires. Il y a aussi des gangsters. Et bien, un gangster qui est en prison, un juif, il a un travail. Le fait même qu'il est en prison, même s'il se dit non-croyant, le fait même qu'il est là-bas, il véhicule une énergie. Il véhicule dans cet endroit, il irradie autour de lui une énergie.
Comme Joseph,
comme tout le monde. Et c'est ça ce qu'on appelle d'Irab et Tartonim. C'est ça ce qu'on appelle la demeure pour un Kadosh Baruch Hu ici-bas. Ça veut dire que vous le voulez, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, chaque seconde, monsieur Benita, chaque instant, on est en train de créer une demeure pour un Kadosh Baruch Hu. Et même si je veux renier ma Emouna, le fait même que je suis présent dans un endroit, j'irradie déjà. C'est comme des ondes nucléaires. C'est pas les ondes pour nucléaires. Comment on dit pour le nucléaire? On dit les radiations. Tu veux que tu le passes, c'est irradié, il n'y a rien à faire. Ça, c'est un juif.
Donc un juif, c'est radioactif.
C'est radioactif. Exactement, mais c'est le cas de le dire. Un juif, c'est radioactif. Et c'est le but. Seulement, il y a des gens qui expriment clairement à Kadosh Baruch Hu leur attachement, par leur libre arbitre, qui disent voilà, on t'a choisi. Des gens qui ne le disent pas. Bon, alors dans ce cas, il l'a pas dit. Il l'a pas dit, au moins il fait quelque chose parce qu'il passe par cet endroit, mais il est. Voilà.
Quelqu'un qui a tout renié, qu'est-ce qu'il peut,
alors ça,
qu'est-ce
explique,
qu'il peut ramasser?
Alors justement, je vais expliquer. Ça, ça explique beaucoup de choses.
Mais tout juif.
Tout juif. Tout juif.
Donc tout celui qui n'est pas goy.
Tout celui qui n'est pas goy. Tout celui qui a une échappée d'un juif.
Il y a des différences.
Peu importe.
Dans l'actuel, maintenant, on dit je suis un sami goy, on ne dit pas je suis un sami israël.
Non, non. Tout celui qui est juif. Non, remercie.
On peut être pas goy et ne pas être israël.
Ah non, c'est pas possible. Non, non, pas du tout.
Prends des choses à Sanigoy, on dit pas chasse à Israël.
Parce qu'on parle de juifs, c'est les juifs qui font les brachotes.
Je remercie Dieu de m'avoir fait Israël.
Quand on voit dans quelle débauche et dans quelle bêtise sont les goyim, on dit chez le Sanigoy.
C'est ça que je suis en train de dire, c'est pas pareil. Vous avez goûté une fois à quelqu'un qui m'avait dit, c'est pas chassidi, je n'ai pas d'explication. Mais la seule certitude qu'on a, c'est qu'on n'est pas goy. On ne sait pas si on est vraiment juif. Bon. Si on est vraiment Israël. Israël, d'ailleurs, on dit. Béné Yaakov, Béné Israël, c'est pas la même chose.
Oui, d'accord, mais bon. En tout cas, on est Yehudi, ça c'est sûr. On a l'Enshama d'un juif. On a tous l'Enshama d'un juif, peu importe notre passé. Et je vous donne un exemple. Imaginez par exemple que vous prenez l'autoroute pour aller quelque part, en vacances, je ne sais où. Et vous ratez l'heure d'autoroute. Parce que vous êtes en train de vous disputer avec votre femme ou je ne sais qui, d'accord ? Et vous avez raté l'air d'autoroute. La sortie. Il y a une bretelle, vous l'avez ratée. D'accord. Donc vous avez vous tapé 40 km. Et pendant ces 40 km, vous êtes encore plus nerveux.
Et payé deux fois le péage.
D'accord. Et donc finalement, pendant ces 40 km, vous avez fait 40 km que vous ne comptiez pas faire. On est d'accord ? Vous ne comptiez pas faire ces 40 km. Alors justement, et ben ces 40 km que tu vas passer, c'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé de te les faire passer. Parce qu'il a voulu faire passer un juif par ces 40 km. Maintenant, si tu as voulu, pendant ces 40 km, te dire, bon, bah, si je passe par là, c'est qu'il y a quelque chose, essayer de réfléchir, essayer de penser à un Dvar Torah, écouter un cours de Torah, tant mieux. Même si tu l'as pas fait, le fait même qu'un juif est passé par là-bas, il a déjà irradié. Il a déjà fait quelque chose. C'est déjà quelque chose. Ça, c'est le chidouche du Baal Shem Tov. Que le fait même qu'un juif passe par un endroit, il fait déjà un travail.
Alors, si un juif est déjà passé, moi, j'ai pas besoin de passer derrière. Ça rapporte rien.
Des fois, il faut plusieurs passages. Il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de choses à récupérer.
Même s'il ne se passe rien.
Même s'il se passe une chose négative.
Même s'il se passe une chose négative.
Tu en panne, oui.
Hasard.
C'est fou ce qu'on est en train de dire. Deuxième, Monsieur Benita, je vous donne un exemple. Imaginez par exemple le juif, il est parti dans un endroit et il a fait des bêtises. Il est parti faire des bêtises, il est parti faire les 400 coups. On lui dit, pour les bêtises que tu as fait, tu vas payer, mais sache qu'en parallèle de tes bêtises, tu as irradié et tu as récupéré quelque chose à cet endroit.
C'est pour ça qu'on a acquéri la terre d'Israël.
C'est fou. C'est fou.
Alors finalement, quoi qu'on fasse, on récupère.
Quoi qu'on fasse, on fait un travail. Dira Petartonim. Quoi qu'on fasse, on construit une demeure pour Akadosh.
Même en péchant.
Enfin, c'est difficilement acceptable. Hein.
C'est la réalité. C'est pour ça que je pense les radiations nucléaires, je pense que c'est un bon exemple. C'est un bel exemple. Ça veut dire, tu peux bien l'utiliser, tu peux mal l'utiliser, mais il y en aura tout le temps. Tu peux pas les arrêter. On peut pas les arrêter. On peut essayer de les confiner, de moins les. Mais il y a pas. Elles vont s'exprimer. C'est un exemple pour donner. Dira Betartonim, une demeure pour Akadosh Baruch
Hu. Une lumière différente.
Voilà. Bleu. Alors, maintenant qu'on a compris qu'en vérité, chacun de nous est en train de construire une maison pour Akadosh Baruch Hu. Là, c'est. Ouais, c'est en tout cas, je vous parle pour moi. Ce chapitre me change complètement la façon de voir le judaïsme, de me voir dans le monde, de voir en général quel est mon travail sur terre. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on a toujours pensé que notre travail, c'est bon, Dieu il nous a mis dans ce monde, on ne sait pas trop pourquoi, il nous a donné un travail, et on doit survivre. D'accord? On doit survivre, c'est-à-dire on doit essayer de tenir bon comme on peut, faire ce qu'il faut, ne pas faire ce qu'il ne faut pas faire, et c'est tout, ça s'arrête là. Et le but, c'est de tenir bon jusqu'à la fin du parcours, et à la fin du parcours, on monte en haut. C'est comme ça qu'on a toujours compris les choses.
C'est
qu'il y a une mission, tu vois, on t'a envoyé en mission. Qu'est-ce qu'il fait un soldat quand il est en mission? Il attend pas de rester toute sa vie en mission. Il voit la fin de la mission, on lui dit, bon, j'attends la fin de la mission. C'est comme ça qu'on a toujours pensé. Et là, la chassidoute, le Baal Shem Tov, le Tania, t'apprends, tu dis non. Il te dit, ne cherche pas la fin de la mission. La mission est ici. Elle restera toujours ici. Le but est ici, c'est la construction que tu es en train de faire ici. Construire une demeure pour Akadosh Baruch Hu. Dira Betartonim. Liotlo dira Betartonim. Avoir une demeure pour Akadosh Baruch Hu, ça c'est la raison principale pour laquelle Akadosh Baruch Hu a créé ce monde.
Mais alors est-ce que par les actes qu'on fait, chacun construit sa maison ou c'est toujours la même maison qui est construite?
C'est la question d'Abraham. Enfin, c'est dans la même direction. Dans la maison, il y a des options. Chaque fois que je fais une mise, je rajoute une pierre dans la maison. Je rajoute une pierre, etc. Je fais une avera, je casse une pierre.
C'est une image.
Oui, j'ai bien compris. J'ai bien compris, mais bon. Non, je veux dire.
Non, mais il a raison.
Est-ce que chacun est court pour soi?
Non, mais il a raison. Ça veut dire qu'il a raison parce que c'est intéressant ce qu'il dit. Parce que justement, le Zohar, il parle de construction. Construction, ça veut dire que c'est collectif.
Voilà.
Et que ça s'accumule. C'est-à-dire que ma mitzvah vient s'accumuler et s'ajouter à tout ce qui a été fait.
Voilà, c'est ça.
À l'ensemble de ce qui a été fait.
Donc c'est la même maison qu'on construit pour Akadosh Baruch Hu.
Bien sûr.
D'accord.
On construit, le monde est une maison pour Akadosh Baruch Hu.
Et tout le monde y contribue.
Akadosh Baruch Hu veut faire de notre terre le plus bel endroit du monde. Air France, ils disent faire du ciel le plus bel endroit de la terre. Nous, on dit faire de la terre le plus bel endroit de l'univers. C'est toujours le slogan d'Air France. Hein, on va changer. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris Air France, moi. On est de compagnie maintenant. Alors, quoi?
La France is in the air.
Ah, la France is in the air, c'est leur nouveau slogan. Ils le disent en français ou en arabe?
En arabe.
Ok.
Bon, on rentre, c'est la ligne 0.
Ah. Bon,
Le Beth Amikdash, c'est Gérard de
Tartonie. Évidemment. Par excellence. D'ailleurs, ça nous ramène à une grande marloquette.
Donc, lorsque Beth Amikdash est là, pourquoi je dois faire des mitzvot ?
C'est un grand débat, ça pourrait répondre à ta question. C'est un grand débat entre Maïmonide et Narpanide. Quel est le but du Beth Amikdash ? À quoi ça sert le Beth Amikdash ? Est-ce que le but du Beth Amikdash, c'est que là-bas, on fait un effort pour quitter la matière, pour quitter le monde dans lequel on vit, rentrer dans un cocon de spiritualité ? Ou le but est au contraire ? Ou est-ce qu'on va dire que le but est au contraire de... d'être dans la matérialité
et d'élever
la matérialité tout en restant dans la matérialité. C'est un grand débat entre Maïmonide et Narpanide. Et concrètement, qu'est-ce qu'on faisait au Beth Amikdash ? On prenait des sacrifices. C'est-à-dire, on prenait des sacrifices, il y avait de tout dans le Beth Amikdash. On a commencé cette semaine le Chumash Vaikra. On te dit justement que quand on faisait les sacrifices, le Harizel explique quand on faisait un sacrifice, il y avait les quatre éléments fondamentaux sur lesquels le monde est créé. On sait que le monde est créé sur quatre éléments. De même, Tsomeach, Chaim et Daber. Le minéral, le végétal, l'animal et l'homme. Et le Harizel explique, il dit que lorsqu'on offrait un sacrifice, on retrouvait les quatre éléments. Par exemple, on va prendre pratiquement tous les sacrifices. Le minéral.
Le sel.
D'accord ? Le minéral, on a le sel. On a aussi, par exemple, il y avait des sacrifices, il y avait de l'eau. D'accord ? C'est aussi le minéral. Le végétal, on avait beaucoup de sacrifices dans lesquels on mettait de la farine. On a aussi l'huile d'olive.
Non,
vous avez des omelettes, des trucs comme ça. Vous avez des jolis trucs là-bas. D'accord ? Oui,
monsieur.
Mais tu vois, la part cette semaine, on te parle machavat. Machavat, c'est quoi machavat ? C'est une omelette. D'accord ? Donc ça, c'est le végétal. Après, tu as l'animal. C'est quoi l'animal ? L'animal, c'est d'abord les animaux et c'est aussi les volatiles. Tout ce qui est les oiseaux, etc., c'est le règne animal. Et on offrait ça à Beth Amikdash. Après, tu as l'homme. C'est qui l'homme ? C'est celui qui offre et le Kohen. Ça veut dire que le Harizel explique que dans le Beth Amikdash, on essaye de prendre un condensé de tout ce qu'il y a dans le monde, minéral, végétal, animal et homme, et essayer d'élever ça vers un Kadosh Baruch Hu, mais tout en restant dans la matérialité. C'est-à-dire que le but n'est pas de quitter la matérialité, le but est de rester dans la matérialité. On pourrait parler longtemps dessus. On n'a même pas encore commencé dans le texte. Ça, c'était d'ailleurs l'erreur. Le jour de l'inauguration du Mishkan, Vayi Vayi Mashemini, l'erreur de Nadav, l'erreur entre guillemets, je dis, parce que bon, ils étaient pas au courant de ça. L'erreur de Nadav et Aviyu, c'est qu'ils ont voulu justement quitter la matérialité. Ils sont en train, comme dit le Rachaim Akadosh, ils sont rentrés, les enfants de Aaron, ils sont en train d'une extase. Une telle extase que ils ont cherché à quitter leur corps, à quitter l'enveloppe de leur corps. Et ça a marché, parce que c'est les tzadikim, donc il n'y a rien qui les a retenus, donc ils sont partis. Et là, Kadosh Baruch Hu, il a dit non. Quand on dit qu'ils étaient sous, etc., c'est une image. Ils étaient peut-être aussi sous. Mais ça veut dire qu'ils sont dans un état second, dans un état dans lequel ils cherchaient à quitter le corps, chercher la spiritualité. Et leur neshama a eu un tel dévoilement qu'elle a quitté ce corps.
Mais ils ont dit que c'est parce qu'ils s'approchent du Beth Amikdash.
Oui, mais voilà. Ça veut dire qu'ils avaient une telle soif que c'était pas l'heure de rentrer, on pouvait pas rentrer, c'est pas Kippour. Et ils sont rentrés.
Non, ils sont pas rentrés. Dieu les a tués avant qu'ils rentrent.
Non, ils sont rentrés, bien sûr qu'ils sont rentrés. Hein? Quoi?
Avant.
Oui, ils sont rentrés.
Ils sont rentrés.
Avant l'histoire de Nadav Aviyu, on rentrait pas toujours.
Bien sûr. Ils savaient pas que c'était interdit. Non, bien sûr. Mais ça veut dire que ça s'est passé comme ça. Il y avait l'inauguration. Et dans l'inauguration, il y avait une telle joie qu'ils ont dit les Chaim, que c'est normal. Ils ont dit les Chaim. Et ils sont rentrés dans une extase. Et vous savez, dans une extase, il n'y a rien qui peut t'arrêter. C'est comme la recherche du plaisir. D'accord? Tant qu'il n'y a pas eu.
De limite.
D'accord. Tant que le plaisir s'est, tant qu'il n'y a pas eu, excusez-moi du terme, l'orgasme, parce que c'est un terme français, d'accord. Tant qu'il n'est pas arrivé, il ne s'arrêtera pas. Il ne peut pas s'arrêter. Alors pour eux, c'était quoi le point culminant? Le point culminant, c'était rentrer dans le Saint des Saints. Et dans le Saint des Saints, c'est quoi le point culminant? C'est quitter la matière.
Mais des grands hachamim comme ça, comment ils pouvaient avoir ça dans la tête de rentrer dans le Kodesh HaKodashim?
Mais parce qu'à l'époque, c'était pas interdit. C'était Kohanim aussi. C'est vrai que dans un moment, c'est le Saint des Saints, etc. Mais bon, pour eux, c'est comme une centrale. Ils rentrent dans la centrale nucléaire.
Mais pourquoi pendant les 400 ans qu'a duré le Beth Amikdash de Salomon, pourquoi les choses se sont peut-être si mal passées? Pourquoi y a-t-il eu des guerres intestines entre les tribus d'Israël? Pourquoi tout ça? Pourquoi on n'a pas trouvé la paix? On a juste trouvé la paix pendant le règne court de Salomon.
Salomon.
Après, ça a viré très très mal.
Parce que Dieu ne nous a pas enlevé notre libre arbitre.
Mais quand même, il y avait le Beth Amikdash, ça aurait dû nous calmer.
Même avec le Beth Amikdash.
Même avec le Beth Amikdash.
Bien sûr. On fautait. On fautait encore plus qu'aujourd'hui. C'est encore pire qu'aujourd'hui.
Alors qu'est-ce qui changera avec l'avenir du Beth Amikdash?
Ben, c'est qu'entre temps, maintenant, on s'est travaillé. Il y a eu un changement intérieur profond.
Vous croyez vraiment?
C'est sûr, à 100%.
Non, enfin, on nous présente ça comme quoi les gens de cette époque-là.
Dieu nous changera et on a déjà changé. On a déjà changé.
On n'est pas mieux qu'avant.
C'est sûr qu'on a changé. Bien sûr qu'on a changé. On est beaucoup plus près qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, ils étaient religieux parce qu'ils étaient dans le coup, parce qu'ils sont grandis dedans. Mais maintenant, il y a un travail en profondeur. Un travail de réflexion qu'il n'y avait pas à l'époque. C'est sûr qu'il n'y avait pas à l'époque. À l'époque, les gens ne réfléchissaient pas. Ils ne réfléchissaient pas, ils se laissaient emporter. Aujourd'hui, il y a un travail de réflexion. Après, la réflexion, des fois, ça nous amène à des bonnes directions, des fois, des mauvaises directions, mais ça nous amène. Ça change pas, ça. On descend, mais on se travaille. On se travaille. Spirituellement, c'est-à-dire qu'on a moins...
Parce qu'on a eu la même discussion avec ton père, parce qu'on a étudié un passage où Ishmael et Esav, quand ils se séparent de Yaakov, il dit « Elcha, ve'elcha le negdecha ».
Oui.
Là, on apprend que les Oumat HaOlam et Israël sont toujours en parallèle. Tu n'as jamais, au fait, Israël ici, Oumat HaOlam ici. Je parle d'un point de vue de la réflexion.
Oui, oui.
Ou le contraire. Ils sont toujours en même piédestal. Donc, moi, j'avais dit à ton père, mais c'est marrant parce qu'on voit qu'il y a 2000 ans, les pays d'Israël, il y avait des grosses têtes. Personne maintenant n'est à la matrika de Rabbi Shimon Bar Yochai. Mm. Et tu prends un scientifique d'aujourd'hui, il est beaucoup plus avancé qu'un scientifique du Moyen-Âge. Donc, a priori, au fait, l'évolution scientifique, l'évolution de la Chochma Goy...
Je ne suis pas forcément d'accord. Parce qu'à l'époque, il y avait des très grosses têtes, même chez les Goyim, qui ont inspiré le monde jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Qu'on n'a plus aujourd'hui.
Pourtant, ils n'ont pas fait les découvertes que Einstein a fait.
C'est rien, les découvertes. Eux, ils ont créé les bases des découvertes.
Il fallait savoir qu'il y avait à découvrir.
Quel génie d'aujourd'hui va inspirer le monde dans 1000 ans? D'après toi, dans 1000 ans, quel génie d'aujourd'hui on en parle lui dans 1000 ans?
C'est compliqué. Mais il ne sera pas là dans
le. Mais j'ai compris. Mais ça veut dire.
Il va marquer.
Il a marqué le monde pour 1000 ans. C'est compliqué, c'est pas rien. Bon, alors.
Pardon.
Voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Bon, en tout cas, ce qui est clair, pour revenir à notre sujet, on n'a pas encore fait beaucoup, on n'a pas encore fait du tout dans le texte, enfin, juste 2-3 lignes. Pour revenir à notre sujet, ce qui est clair, ce qu'on comprend d'ici, c'est que la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a créé ce monde, le but, le tahlit pour lequel Akadosh Baruch Hu a créé ce monde, c'est pour qu'on lui crée et qu'on lui construise une demeure ici-bas. Ça, c'est son but. Et une demeure, dira. Une demeure, betartonim, ici-bas, dans ce monde. Donc, c'est sans vouloir quitter la matière, au contraire. Ça se passe ici-bas, dans ce monde. Maintenant, on va avancer un peu dans les voies. Veine kamagdola. Je suis au milieu de la page 94. Combien est grande la joie idiote de quelqu'un de simple ou cheval anachim et quelqu'un que même par rapport à des gens normaux il est considéré bas quand on lui donne la possibilité à cette personne-là qui est très très simple beit karvut olemeler basar vadam quand on lui donne la possibilité de s'approcher d'un roi en chair et en os. Ça veut dire comme ça. Imaginez le scénario. Normalement, qui c'est qui s'approche du roi? C'est les ministres. Et encore.
La reine.
Voilà, bon. Même parmi les ministres, c'est pas tous les ministres. Vous savez que les rois, il y a des ministres que c'est pas un système démocratique. Il y a des ministres qui supportent et il y a des ministres qui supportent pas. Et les ministres qui supportent pas, il rentre pas chez lui. Il y a des ministres qui voyaient pas le roi pendant des années. Quand on lit l'histoire d'avant. Quand on lit l'histoire dans l'Antiquité. Donc déjà, on voit que même le ministre, pas tout le monde peut avoir les faveurs du roi. Bon. Maintenant, imaginez quelqu'un de simple, qui n'est pas ministre. Est-ce qu'il peut espérer un jour voir le roi, rentrer chez le roi? Même pas en rêve.
Normalement, non.
Même pas en rêve. Maintenant, imaginez quelqu'un que même parmi les gens simples, il est considéré quelqu'un de dédaigneux. Quelqu'un de... un clochard. Est-ce que lui, il va espérer un jour rentrer dans le palais du roi?
Encore.
Et dans la pièce du roi?
Encore.
C'est improbable. Ça n'arrivera jamais. Qui est le roi et qui est le clochard? Le roi, c'est Akadosh Baruch Hu. Le clochard, en tout cas celui qui est bas, c'est nous. Mais bas de chez bas, c'est-à-dire qu'on n'est même pas des ministres, on n'est rien. Maintenant, imagine-toi, quand on va voir le clochard, on lui dit, tu sais quoi? Le roi, il t'a convoqué. Il a dit, il veut pas les ministres. Il veut pas parler aux ministres. Il veut pas parler à ses enfants. Il veut parler à toi, le clochard. Et c'est toi qui vas le faire kiffer. Il veut te voir dans son palais, il veut te voir. Il veut te voir construire. Il va être comme un fou, Claude Germain, c'est pas possible, il va dire j'hallucine. C'est un truc de fou, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu racontes, c'est pas possible. Vous imaginez la simra qu'il va avoir? Mais c'est pas possible, c'est fou. T'es sûr, vous êtes sûr? Oui, le roi t'appelle à toi. Il t'appelle à toi, Mendy Asouli, il te dit viens. Viens dans mon palais, j'ai besoin de toi. Et il n'y a que toi qui va me faire plaisir, et que toi qui sais construire ma maison. Il va être comme un fou. Mais imaginez. La simra, imaginez la simra qu'on aurait eue. D'accord? Alors, et c'est pas seulement qu'il va lui dire, c'est pas, alors, même s'il va lui dire juste, viens me voir pour 5 minutes. Mais ces 5 minutes, pour lui, ils auront une valeur éternelle. C'est-à-dire quoi? Moi, je vais rentrer 5 minutes chez le roi. Mais ça va le marquer à vie. Imaginez comment il va se sentir valorisé. Il va se sentir président de la République. Il va dire, je suis devenu une grosse pointure. Ben, imaginez que c'est exactement la même chose par rapport à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que dit Kadosh Baruch Hu? Kadosh Baruch Hu, c'est le grand roi. On aurait pu penser que qui c'est qui peut rentrer chez Kadosh Baruch Hu? Miya Lebear Hashem. Hein, ce que dit le roi David. Qui montera? Miya Lebear Hashem. Qui c'est qui va monter chez Kadosh Baruch Hu? On aurait pu penser, c'est les grands tzadikim qui sont au Gan Eden, dans le monde de Hatzilut, Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Akiva, eux, ils peuvent rentrer de temps en temps, et encore. Nous, même pas en rêve, c'est improbable. Et qu'est-ce que dit Akadosh Baruch Hu? Tous ceux qui sont au Gan Eden, oh, mettez-vous de côté, vous. En bas, je vais aller voir. Je vais aller voir en bas. Je sais pas si vous imaginez ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que quand vous avez un tzadik au Gan Eden en haut, maintenant il est au Gan Eden, il est pas sur terre, il reviendra sur terre, mais il est pas sur terre. Dieu lui dit, bon, j'ai vu ce que tu as fait, mais j'ai plus intéressant à voir. Et quand il va voir ce qui est plus intéressant, il va descendre. Il va descendre, il va voir la petite mitzvah que va faire Serge Sibonier. Grande mitzvah. Mais t'es d'accord que c'est rien par rapport à ce que Rabbi Shimon Bar Yochai est en train de... Imagine-toi, Rabbi Shimon Bar Yochai au Gan Eden, il est en train de déballer avec Moshe Rabbeinu, des chidushim, etc. Et j'aurais dit, c'est bien, c'est très bien, continuez, mais je vais descendre. Je veux revenir à la maison. Home. Homme suite homme. Il va rentrer à la maison. C'est où la maison? C'est en bas. C'est fou. Quand on réfléchit à ça, on se dit, mais c'est fou, c'est pas possible, c'est impossible. C'est ce qu'il dit dans les mots ici. Beit karvuto, le meler basar vadam, amit arsen, vedar ito imo. Maintenant, imaginez que le roi, il va vous dire, pas seulement, viens, passe me voir. Je veux que tu habites chez moi à la maison. Et pas seulement, je veux que tu habites chez moi à la maison. Je veux que tu habites dans ma chambre.
Ça arrive.
C'est pas possible. C'est pas possible. C'est quoi, c'est un coup de foot, c'est quoi ce truc-là? C'est exactement ça ce qui se passe. À Kadosh Baruch Hu, il dit pas seulement, bon, je descends en bas pour 5 minutes, fais-moi une misère et je repars. Du style, je te prends pour 5 minutes, après hop, tu retournes chez toi. Non, je vais habiter avec toi. Je veux du temps à rester avec toi, je veux pas te lâcher. Je veux que tu rentres tout le temps avec, je veux qu'on soit tout le temps ensemble. C'est sûr que, dans ce cas-là, la simra qu'il aurait, ce idiote, sa simra qu'il aurait, ce simplet, c'est une simra extraordinaire. Ça veut dire qu'il se sent valorisé, mais extraordinaire.
C'est le cadeau de compagne. Ah.
C'est le cadeau empoisonné, le fameux cadeau empoisonné.
Ah, là, allez, quoi.
À Tabir Artano.
Il est déjà beau, ce cadeau, monsieur Benita, mais. Il peut encore savoir son
cadeau. Hein? Il nous a fait un plaidoyer, là.
Ah oui, mais tout le monde a retenu que...
Indignez-vous!
Tout le monde
l'a retenu. Ça, c'est le bon, indignez-vous.
Ouais, ouais, pas l'autre.
Mais pas l'autre, ouais. J'ai pas lu le cadeau.
J'ai bon, hein?
Ouais. Ouais.
Alors, donc il dit maintenant... Alors, il continue, il dit... Vekal vachomer, le enketz, le kir vatve dirat melech ma'acham alachim akadash baruchu. Maintenant, imaginez de quel roi on parle. On parle pas d'un simple roi. On parle du roi, des rois, qui est Akadosh Baruch Hu. C'est une image, bien sûr. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu est le roi des rois des rois. C'est-à-dire que tu vois, tu t'imagines un roi, imagine que ce roi, il a un roi sur lui. Waouh! Ce roi, il a encore un roi sur lui. Parce que c'était, en fait, c'était fréquent, à l'époque, c'était très fréquent. C'était comme ça. C'est-à-dire que, il y avait un roi qui gérait un pays, et ce roi devait rendre des comptes à un roi qui gérait.
Le roi d'Europe,
d'accord? Plusieurs pays. Après, il y avait le continent, le monde, etc. Et Ahasvéros, j'étais, waouh, le roi des rois.
Ah oui, c'est sûr.
Ahasvéros, il régnait 127 provinces. C'est énorme. Maintenant, imaginez Akadosh Baruch Hu, c'est pour ça qu'on dit que Ahasvéros, c'est Akadosh Baruch Hu. Le Midrash dit qu'Achashverosh est une image pour Akadosh Baruch Hu, celui qui règne sur 127 pays, dans cette province. Et donc, Achashverosh, je parlais justement du Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est le roi des rois des rois. C'est-à-dire, tu t'imagines, déjà, on a essayé d'imaginer le plaisir que va avoir le simplet quand il va entrer dans le palais du roi. Et que le roi va dire, je veux que tu habites avec moi. Dans mon palais, dans ma chambre. On a imaginé que c'est pas le roi. C'est le roi des rois des rois.
Big boss.
Et imaginez que c'est pas le simplet. C'est une fourmi. C'est-à-dire que le roi des rois, il va aller voir la fourmi, il va lui dire, viens, je veux que tu freines avec moi dans ma chambre. Problème. Tiens pas la route. C'est fou. Ben, c'est exactement ce qui se passe. Dira Petartonin. D'accord? C'est exactement ce qui se passe. Au Kedirtiv, donc, le Kalvachomer le Enketz, le Kirvat ve Dirat, Melech Maacham Elachim Akadosh Baruch Hu. Au Kedirtiv, comme il est écrit, Mi-Ouzé. Ah, vous connaissez Mi-Ouzé.
Mi-Ouzé.
Mi-Ouzé, Asher, Arev, Libo, La Geshet Elai, Ne'um Hashem. Akadosh Baruch Hu dit, qui est celui, Asher, Arev, Libo, que son cœur est agréable, c'est-à-dire que son cœur est inspiré, La Geshet Elai, de s'approcher de moi, Ne'um Hashem, parole d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il nous attend. Akadosh Baruch Hu dit, je veux que vous venez, je vous invite. Et je veux vous, je veux personne d'autre. On s'imagine la simcha qu'on peut avoir quand on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il compte tellement sur nous. Seulement. Attention. Dans quel cas je peux avoir la simcha? Seulement si je me sens moins que rien. Comme je me sens moins que rien, là j'apprécie le fait qu'Akadosh Baruch Hu, qui est très 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 grand.
Il a été valorisé là.
Il m'a valorisé. Mais si, dès le départ, je me sens quelqu'un, hein, je me dis moi. Quand tu sais Dieu, il a demandé, je dis mais c'est qui Dieu? Mais c'est ça en vérité. Quand tu as l'orgueil, quand tu as la gava, quand j'ai la gava, c'est-à-dire quand je n'accepte pas la présence d'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Je peux pas avoir de simcha. C'est-à-dire, je peux pas apprécier à juste valeur et à juste titre le fait que Akadosh Baruch Hu me donne la chance de bosser pour lui. C'est quoi bosser pour lui? Mais je dois rien, moi. Il va me payer, quand il va me payer? Quand il va me payer? Le cadeau. Alors, quand il va me payer ce cadeau? D'accord? Mais quand, je parle pas de vous, hein. Quand on a l'humilité de dire qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu nous doit rien. Et que c'est un plaisir pour nous, c'est un honneur pour nous de pouvoir s'approcher de lui. Dans ce cas-là, non seulement que c'est pas une charge de faire les mitzvot, mais au contraire, c'est une simcha de faire les mitzvot. Et rappelez-vous, le thème de ce chapitre, c'est la vraie simcha. Là, on commence à comprendre un peu mieux ce qu'il veut dire. Il dit que comment on peut avoir une vraie simcha, c'est quand on voit Dieu partout. Et pas seulement qu'on voit Dieu partout, c'est qu'on se sent petit. Quand tu vois Dieu partout et que tu te sens petit, tu dis, mais attends, il est tellement grand, je suis tellement petit. Quel rapport? Il veut que moi? Il n'y a pas d'autre, il est en haut là-bas. Il veut moi? Que moi? C'est un problème. Et c'est là que tu comprends qu'il y a une incohérence, et c'est là que tu comprends qu'en vérité, c'est extraordinaire ce qui est en train de se passer. Dans Yom Yom, il donne un exemple pour illustrer ça. Il dit, imaginez, si tu as, imaginez la scène dans laquelle on aurait un simplet et un génie. Quand je dis simplet, c'est comme à l'époque, c'est-à-dire c'est les gens illettrés, analphabètes, etc. Pire que ça. À l'époque, soit on était intelligent, soit on était bête. Et quand on était bête, on était vraiment bête. Bête pour la vie. D'accord? Alors, imaginez, dans la même pièce, autour d'une même table, vous mettez un génie et un imbécile. De quoi ils vont parler?
De rien.
Hein?
Dans votre cas.
De rien. Non, ils n'ont pas les mêmes centres d'intérêt. Non, il va parler de Torah, de Chochma, de science, ou il va parler de football. D'accord?
ça va être répété, ça.
C'est pas moi, j'aime pas le football.
Enfin. Normalement, ça se passe pas comme ça. Si un haram qui est à table, il va orienter la discussion sur la Torah.
Mercredi.
Oh là là, ça tombe mal. Il y a Paris qui joue contre.
Assez risqué ce mercredi. Bon.
C'est pas Paris.
Alors, je t'arrête de dire. Imaginez que vous mettez autour de la même table, ou bien dans la même pièce, deux personnes, un génie et un imbécile. De quoi ils vont parler? Ils vont pas parler. Parce que même s'ils veulent parler, ils peuvent pas communiquer, ils ont pas le même sens d'intérêt. Alors, la vérité, c'est que le génie est dérangé par la présence de l'autre. Enfin, c'est pas qu'il est dérangé, c'est qu'il...
Il n'y voit pas d'intérêt.
Ouais. Je vois pas l'intérêt, quoi. Mais la vérité, c'est qu'encore plus que le génie, l'imbécile est dérangé aussi. parce qu'il a beaucoup d'admiration pour le génie, et il aimerait vraiment pouvoir parler avec lui, se rendre utile, faire quelque chose. Mais il n'arrive pas, parce que l'autre, il dit, bon, il essaie de regarder les livres, il n'arrive même pas à lire la forme des lettres. Qu'est-ce que tu veux que je t'explique si tu as écrit dans les livres, tu n'arrives même pas à lire. C'est pas possible. T'es un illettré, t'es un analphabète. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Un jour, le génie, l'érudit, il va demander à l'analphabète, il va lui demander un service. Il va lui dire, est-ce que s'il te plaît, tu peux monter sur l'échelle et me chercher le livre bleu qui est en haut? D'accord? Donc, un livre bleu qui est en haut à droite. D'accord? Il va le faire.
Il va le faire avec beaucoup de...
Wow.
C'est un grand kavod.
C'est un grand kavod. Pourquoi c'est un grand kavod? Parce que tout à coup,
voilà,
il sent qu'il sert...
Il s'intéresse à quelqu'un.
À quelque chose. J'ai rendu service au génie. Est-ce qu'il a demandé au génie, ah mais payez-moi pour le faire? Mais au non. Contraire, il aurait payé pour le faire. C'est un plaisir pour lui. Il fait avec le sourire. Il dit, ah, oui, bien sûr, n'hésitez pas, hein, si vous avez un autre livre. Je suis là même à 4h du matin. C'est un plaisir pour lui de s'être rendu utile pour quelqu'un qui l'admire, pour qui il a de l'admiration, mais qui n'arrive pas à se rendre utile pour lui. Et là, pour une fois, il a pu se rendre utile. Alors, dans la même, il dit, c'est la même chose par rapport à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, c'est un géant. Il nous est tout petit. Et normalement, il n'y a aucun rapport entre lui et nous. C'est-à-dire, comment tu veux lui rendre service? Tu peux pas lui rendre service. Et qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Kadosh Baruch Hu, j'ai besoin de toi. Fais-moi une mitzvah. Mais le fait même de savoir qu'on fait une mitzvah, au lieu de dire c'est quand que tu me payes, je devrais être heureux, je devrais courir pour faire une mitzvah. Mais tu t'imagines, il me donne la possibilité de faire une mitzvah. Il me donne la possibilité de communiquer avec lui alors qu'on est à des années-lumière. Mais c'est extraordinaire. Mais je devrais danser avant de faire une mitzvah. En faisant la mitzvah et après la mitzvah. C'est une joie extraordinaire. Mais cette joie-là, dans quel cas je peux l'avoir? Seulement si j'ai l'humilité et que j'admets que je suis moins que rien. Si je me prends pour quelqu'un, et ben là, du coup, je me dis, bah, ben, Kadosh Baruch Hu, c'est qui? Je connais pas. Ben, qu'est-ce que je lui dois? C'est lui qui me doit. Alors que c'est exactement le contraire. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin d'entrer dans la démarche, qu'est-ce qu'il va me payer? Est-ce qu'il y aura un gain d'aide? Est-ce qu'il n'y aura pas de gain d'aide? Est-ce qu'il va me payer? Est-ce qu'il va pas me payer? C'est pas la question. Le fait même que je sens que je me rends utile, c'est extraordinaire. C'est la même chose qu'on m'explique aujourd'hui. À Kadosh Baruch Hu, il a un projet. Et pour ce projet, il a besoin de bâtisseurs. Ces bâtisseurs ne sont pas les tzedekim qui sont au Gan Eden. Ces bâtisseurs ne sont pas les Neshamot et les Malachim qui sont en haut. Ces bâtisseurs, c'est nous. Chacun de nous. Mais ça même, on devrait courir de joie pour le faire. Mais ça, il faut se travailler sur son humilité. Simchat, rappelez-vous le titre de ce chapitre, Simchat ha-nefesh ha-amitit. La joie de l'âme, la vraie. La vraie joie de l'âme.
Ah, de Emouna.
Ha-amitit. La vraie émet.
Ah, de émet.
Vraie joie.
Véritable.
Comment je peux avoir une véritable joie? C'est quand j'admets que je suis petit. Et que là, j'arrive à voir Dieu partout. Et là, j'arrive à apprécier le fait que Dieu m'a demandé de le faire.
Alors, c'est pour ça, donc ça rejoint ce que vous avez dit tout à l'heure, qu'il faut tout le temps être heureux, joyeux, il faut avoir la simha tout le temps.
Voilà.
Grâce à ça.
Voilà. Donc, c'est pas un cadeau empoisonné.
Non. Alors, pour le moment, non.
Pour le moment, non. Voilà.
Tout se passe bien pour le moment.
Véalzé, c'est pour cela. Tiknou, liten, shervodé, lishmoïd, baré, bechol, boker. C'est pour cela que chaque matin, les rabbis m'ont instauré que chaque matin on doit louer Dieu. C'est bizarre. Pourquoi tu loues Dieu tout le matin? Tu commences la journée, tu dis merci à Dieu. Avant même de passer à la Mida, on dit Ashreinu, Matofrel Kenu, Umanaim Goralenu, Maefa Yerushatenu. Vous savez ce que ça veut dire ça? Vous connaissez la chanson, mais je voulais la traduire. Ashreinu, combien nous sommes heureux, Matofrel Kenu, combien notre part est bonne, Umanaim Goralenu, et combien notre sort est agréable, Umaefa Yerushatenu, et combien est beau notre héritage. Mais où est-ce que il est beau? Atabe Khartanu. Le cadeau empoisonné.
Il va répéter ce qu'il a fait samedi.
Oui, non, mais...
Attendez, j'ai pas fini.
Non,
il a raison de poser la question.
Mais ça a lancé le débat.
Il m'a dit ce qu'il m'a dit quand je l'ai raccompagné en voiture.
Non.
Il m'a dit, j'attendais que quelqu'un pose la question.
C'est vrai?
Oui, bien sûr. Il m'a dit, j'attendais.
Et on a tous attendu.
Mais nous, on savait que c'était vous.
C'est pour ça qu'on a dit.
Il m'a dit, je voulais rentrer dans ce sujet-là de.
Avant.
Est-ce qu'on, comment on peut être heureux, enfin, comment on peut retrouver son but en France, etc. Et tout. Je voulais mettre ça, mais il m'a dit, j'ai attendu que ça vienne du CAL. Non, parce que quand ça vient pas du CAL, c'est que bon, c'est pas, ça les dérange pas.
C'est celui qui pose la question.
Hein?
On sait pas tellement.
Ah, d'accord.
Non,
c'est vrai, parce qu'il me dit, si je ne le pose pas, on va pas rentrer dedans.
Non, mais c'est vrai, quand on nous dit Dieu nous a choisis parmi tous les peuples, et quand on voit depuis le temps des temps jusqu'à aujourd'hui,
Alors, monsieur Benita, de quoi sommes-nous heureux?
Ce qu'on peut rajouter, c'est que toutes les autres nations n'existent plus.
Exactement. Alors, c'est quoi, Ashrenou? Bien sûr, t'as raison.
On souffre, mais on
oui, mais d'accord.
Non, mais je suis d'accord.
Moi, je suis pas d'accord avec ça.
Bon, monsieur Benita.
En MP.
En MP, voilà.
Une question à la fois.
C'est pas logique. Qu'est-ce qu'on est là tout le matin à dire merci à Kadosh Baruch Hu? Alors la vérité, c'est que dans la Mida aussi, on commence la Mida en disant merci à Kadosh Baruch Hu. Mais ça, on aurait pu expliquer que c'est une forme de politesse. C'est comme un courrier, tu vois. Quand tu fais un courrier pour demander quelque chose à quelqu'un, d'abord tu le remercies pour ce qu'il t'a fait, après tu lui demandes ce que t'as besoin, et après tu le remercies pour ce qu'il va te faire, en vous remerciant d'avance. Mais c'est beaucoup plus fort que ça. Dans ce cas-là, est-ce que c'est pas un peu hypocrite de commencer la prière, on n'arrêtait pas de dire merci. Tu sais, quelqu'un vient te voir, il va te demander un service, il dit la vérité vraiment merci. Dis-moi ce que tu veux, ça y est, tourne autour du bois, qu'est-ce que tu veux. Pourquoi on dit merci à Kadosh Baruch Hu? C'est pas pour lui graisser la patte. C'est pas pour ça. C'est parce que mamash, on doit lui dire merci. Parce qu'on est content. On dit mais merci à Kadosh Baruch Hu de nous donner la possibilité de faire des mitzvot. Merci de nous donner la possibilité d'être tes sujets, d'être tes bâtisseurs. Merci. Après, on va te demander ce qu'on a besoin. Bon, pour construire, on a besoin de ça, etc. On a des besoins. Mais c'est-à-dire, d'emblée, le discours est différent. C'est pas, bon, écoute, voilà, j'ai besoin de ça, donc je suis venu avec ma liste. Bon, oui, merci pour ce que tu m'as fait, mais il me faut ça encore. Non, c'est pas ça. Je commence la prière en disant merci parce que vraiment, je le remercie. Je dis, mais je suis un microbe, moi. Qu'est-ce que t'as besoin de moi? Qui je suis même pour te parler? Tu es là, tu m'accordes une audience, et oui, qu'est-ce que t'as besoin? Je suis à ton écoute, etc. Je dis, mais déjà, merci de m'avoir accueilli, parce que t'as aucune raison de m'accueillir. Déjà, le fait même que je suis venu te parler, c'est déjà pour moi un honneur. Oui. Ashrenou, sommes-nous heureux. On est heureux qu'on a pu parler à Kadosh Baruch Hu. Et écoutez bien ce qu'il dit ici. Kelomar, ça veut dire, Kmo Shadam Saz Vesameach. De la même façon qu'un homme est joyeux. D'accord? Et comment on peut dire, il est joyeux et il est content, d'accord, il est content et joyeux. Beyirou Shachena Flalo, imaginez une personne, bon, il a un héritage qui lui est tombé, d'accord, ça veut dire que une personne qui est partie de ce monde, etc., et il a un big héritage qui arrive, il y a vraiment un truc du très lourd, il est content. Vous savez que c'est l'approche de la lacha, ça, c'est qu'en parallèle de la tristesse du deuil, quand il y a un héritage qui arrive, c'est une bonne nouvelle. C'est pour ça que quand une personne perd un proche, Ras Veshalom, et qu'il y a un héritage, il fait deux bénédictions. La bénédiction, oui,
bénédiction.
La bénédiction de Dayan HaEmet, le juge de vérité, si c'est bon, d'accord. Et il fait une autre bénédiction chez Rihanou. Je suis sérieux. C'est sérieux. Et s'ils sont plusieurs en profiter, parce qu'ils sont plusieurs frères, il fait Atov Vehametiv. Parce que quand on a quelque chose qu'on va profiter à plusieurs, on fait Atov Vehametiv. Mais attends, il vient de perdre son père, il est là en train de...
C'est comme Yom HaZikaron et Yom HaTzmaout.
Mais là, c'est plus fort, c'est le même jour, c'est le même moment.
T'attends la signature quand même pour souffler.
Ça, c'est juste... C'est une formalité, ça.
Ils sont venus déjà sur le lit. Vas-y, signe.
Ça trouve de même...
C'est une formalité, ça.
Hein?
C'est une formalité, ça. Alors, c'est un peu cru, mais c'est la vérité. Alors, imaginez une personne qui a eu un héritage important. L'héritage, c'est un exemple. C'est pour dire quelque chose d'inattendu. C'est pas quelque chose qu'il a travaillé, qu'il a construit pendant des années, qu'il attendait la somme. Mais là, tout d'un coup, imaginez, vous sortez là, vous rentrez chez vous, tout d'un coup, vous recevez une lettre, aucun rapport maintenant. D'accord? Et pas un truc du Nigeria. Vous avez gagné 100 milliards de dollars.
Ah ouais.
D'accord?
Ah, vous recevez.
Donnez-moi votre numéro de compte pour vous envoyer le virement.
Ouais, c'est un bon état, ça. T'imagines comment t'es heureux? Tu dis, mais attends, mais je le mérite pas.
L'école.
Je l'ai même pas demandé. Il est tombé comme ça. Chez l'eau, un malbeau. Quelque chose pour lequel je me suis pas fatigué. Imaginez comment vous serez Bessimra. D'accord ? Ça veut dire que quand ça vient tout seul, quand ça vient subitement, soudainement, de façon impromptue, sans qu'on l'attendait, plus ça vient de façon inattendue et plus la Simra est grande. Quand tu as travaillé pour l'obtenir, bien sûr tu seras content quand ça arrive. Mais c'est pas... Bon, c'est normal, j'ai travaillé. Je suis content que Baruch HaShem, le contrat a pu aboutir, mais j'ai travaillé pour ça. Quand tu n'as rien travaillé, ça tombe d'un coup. Eh ben, Ken, ainsi. Veyoter Miken. Et encore plus que ça, les Enkets à l'infini, Yesh Lanu Lismor, nous devons nous réjouir. Al Yerushatenu, Shein Chilunu Avotenu, sur l'héritage que nous ont laissé nos parents, nos patriarches, Avraham, Yitzhak, Yaakov. Nos patriarches, Avraham, Yitzhak, Yaakov, ils nous ont laissé un patrimoine. Ils nous ont laissé un héritage. C'est quoi l'héritage qu'ils nous ont laissé? C'est pas des millions, c'est plus que des millions. Ils nous ont laissé l'héritage d'avoir une neshama, et qu'avec cette neshama, on passe partout. On a une neshama de bâtisseur. C'est nous qui construisons pour un Kadosh Baruch Hu. Mais ça, le fait même de penser à ça, déjà, tu devrais danser. Bessimra. On devrait danser le matin. Mais t'imagines? Un mongol comme je suis là maintenant en train de lui dire, tiens, c'est toi qui vas construire. Je suis un micro, moi, qu'est-ce que je suis, moi? Enfin, mongol, excusez-moi du terme, mais...
D'accord, non, mais c'est, oui, d'accord. Mais ça, c'est bien. Mais d'un autre côté, quand on reçoit...
Et donc, je termine juste la phrase, excusez-moi, monsieur Benita, je vous interromps. Ou yichud Hashem a amiti, asher afilu ba'aret mitarat en lod milvado vezo yidirato betartonim. C'est quoi le cadeau, justement, qu'on a reçu d'Akadosh Baruch Hu? Le cadeau qu'on a reçu d'Akadosh Baruch Hu, et qu'on a reçu donc par Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est la possibilité que Dieu nous a donnée exclusivement au Ham Israël, la possibilité de s'unir avec Akadosh Baruch Hu, d'une vraie unité, et d'une unité absolue, ça veut dire qu'on forme un seul élément. Et ça, notre Neshama a été conçu avec une possibilité d'abord de créer cette unité, de développer cette unité et de ressentir cette unité. Dieu nous a donné ça en nous, dans nos gènes de série. Ça, il faut bien comprendre que la neshama qu'un juif a, c'est une neshama que personne a. C'est un pouvoir que personne a. Et ça même, c'est déjà une simra extraordinaire. Après, on va demander les détails techniques si on a besoin. Voilà pourquoi les chachamim m'ont instauré que première chose qu'on fait quand on fait le matin, on va dire merci à Kadosh Baruch Hu. Ashreinu matov chelkenu. Et avant même le ashreinu, qu'est-ce qu'on va dire le matin? Modé ani lefanecha. Merci à Kadosh Toda. Merci de quoi? Merci que tu m'as rendu ma neshama. Nishmati.
Oui, mais alors, s'il ne me rend pas ma neshama, comment je vais accomplir toutes les mitzvot qu'il m'a demandé?
Oui, mais ça, excusez-moi, monsieur Benita, vous reprendre, c'est une façon égoïste de parler.
Peut-être.
Parce que, rappelez-vous l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Quand on se prend pour... Hein? Non.
Qu'est-ce qu'il y a?
Vous ne dites pas modéani.
Non. Parce que, monsieur Benita, je comprends comment vous voyez. Vous voyez les choses comme le patron, il a embauché les employés, et les employés ne vont pas dire merci au patron à longueur de journée. Parce que les patrons, d'accord? Parce que le patron, il a besoin des employés. Parce que s'il n'y a pas d'employés, qui va faire le boulot? Mais Dieu peut faire le boulot tout seul. Et nous, on n'est pas comme les employés. Nous, on est des microbes. Donc quand quelqu'un qui n'a aucun rapport avec la boîte, avec la société, et que le patron les embauche, il dit, mais attends, mais la vérité, franchement, merci de nous avoir embauchés. On n'a aucun rapport.
Mais alors quand il dit, merci de m'avoir pas fait femme, là aussi, c'est la même chose. S'il avait fait tout le monde homme, comment on va se reproduire?
C'est un autre débat, ça. Homme et femme.
Ah, c'est la même chose, c'est la suite. Non, dans Modéani.
Benita, vous aurez préféré une femme?
Je m'en fous, moi. Hein. C'est la volonté de Dieu.
Il est bourrico. Je ne sais pas, il n'a pas essayé. Il est bourrico. Il a été femme dans une autre vie.
Donc, quand je dis merci de m'avoir fait homme, mais c'est.
Monsieur Benita, je vais raconter une blague.
Comment on va se reproduire?
Une fois.
S'il avait fait tout le monde homme.
Monsieur Benita, une fois, Dieu.
Mais le mariage pour tous.
Mais tu te reproduis pas, hein.
Une fois, monsieur Benita, Dieu vient voir un juif qui habite en Floride. Un bon juif, philanthrope, fait les mitzvot et tout. Il en est bien. Il vient le voir dans la nuit, il lui dit, écoute, la vérité, j'ai fait une exception, je suis venu te voir. Franchement, tu me fais plaisir. Tu assures. J'aimerais te faire plaisir moi aussi. Dis-moi comment je vais faire plaisir. Alors, il dit, voilà, j'aimerais pour me faire plaisir. Moi, mon rêve, j'ai une belle voiture. Et mon rêve, c'est d'aller avec ma voiture à Jérusalem. Mais bon, je peux pas, il y a la mer, etc. Je veux une autoroute, d'accord, qui part depuis chez moi à la maison jusqu'à Jérusalem.
Il est bon, là.
D'accord. Ah, tu lui dis, écoute, tu lui dis, bon, c'est compliqué ce que tu me demandes. Tu demandes, c'est compliqué. Tu comprends, il y a la mer, les océans, etc. C'est compliqué. Bon. Réfléchis à autre chose, réfléchis à autre chose. Dis, bon, je vais réfléchir. Il réfléchit. Il dit, bon, j'ai autre chose à demander alors. Ma femme, je la comprends pas. Je la comprends pas, j'arrive pas à la comprendre. Alors, est-ce que tu peux me donner une bénédiction que j'arrive à la comprendre, comprendre ce qu'elle veut? Et là, Dieu lui répond, l'autoroute, 4-5 voies.
Et c'est tellement vrai.
Et c'est vrai, c'est sans vrai, ça.
Non.
Je pourrais la raconter à sa femme ce soir. Ouais.
C'est pour ça qu'il aime les belles voitures. C'est pour aller
mettre. Tu mets la porte avec ou sans valise?
Serge, imagine-toi une auto. Imagine-toi là. Ferrari 300, je sais pas combien là. D'accord.
Dan.
Ah, voilà.
Tu veux la Ferrari, t'es capable direct.
Avec l'autoroute directe chez Jérusalem.
5,99 GTB.
4 voies.
Bon, pour conclure, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, c'est déjà l'heure. Depuis un bout de temps, bon, on a commencé tard, pour ça j'ai commencé à terminer un peu plus tard. Donc, ça c'est la demeure pour Akadosh Baruch Hu. Construire une demeure pour Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Le fait même qu'on se trouve dans cet endroit, même si on fait des bêtises dans un autre, dans ici-bas sur Terre, on construit la demeure pour Akadosh Baruch Hu. C'est une chance que nous avons. Seulement, pour apprécier cette chance, il faut se travailler sur l'humilité. Quand je me travaille sur l'humilité, automatiquement, j'apprends à voir Dieu partout, et automatiquement, j'apprends à être reconnaissant sur le fait même que je peux le servir. Alors, ce qu'on fera la semaine prochaine, Bezrat Hashem, peut-être en façon pourrie, la semaine prochaine, je vais voir, en tout cas, bon, sinon, le prochain cours, on expliquera pourquoi la Gemara a dit que Habakkuk, il a réduit, entre guillemets, toutes les mitzvot à une seule mitzvah qui est la mitzvah de la Emouna. Mais ça, on expliquera la semaine prochaine. Parce que finalement, tout est là. Tout est dans ce qu'on vient de dire. Quand j'ai l'humilité, je comprends que j'ai une relation avec Akadosh Baruch Hu, j'ai tout compris. Mais ça, on va développer parce que ça demande encore pas mal de développement. Voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui.
Quand j'ai la Emouna, j'exécute tout, plutôt.
Oui, mais il faut comprendre comment on arrive à ça. Bon, on va développer.
Bon. On est 10 sans faire.
Est-ce qu'on est 6?